Donc nous avons avec nous les deux auteurs de ce cycle, en fait, de deux romans, enfin, qui étaient quatre d'abord, qui est devenu deux après à la réédition. Donc Sandrine Wolf et Anne Plichota, qui vont un petit peu nous expliquer toute la démarche de la création de ces livres, de ce personnage, de cet univers, et puis de cette aventure quand même un petit peu extraordinaire qu'elles ont vécue. Donc au départ, vous étiez donc bibliothécaire, et puis vous l'êtes toujours. Enfin, il y en a une des deux qui a pris des distances, d'après ce que j'avais vu, parce que bon, le rayon jeunesse et puis enfin s'occuper de jeunesse et puis d'avoir les gens qui demandaient des...
C'était très compliqué.
Voilà,
c'était
complexe.
Bon, j'étais contractuelle, donc j'avais un contrat qui se terminait.
D'accord.
Donc c'était voilà.
Très bien. Et donc Anne voulait toujours.
Ouais, moi je continue. Ouais,
d'accord. Ouais. Alors comment s'est fait comment êtes-vous arrivée à écrire à créer ce personnage de Doxa Pollock? C'est arrivé comment tout ça?
Alors en fait, c'était il y a 3 ans au moment du réveillon de Nouvel An. Avec Anne, on avait déjà travaillé sur un projet plutôt album jeunesse, donc dont je faisais les illustrations et Anne les textes. Donc on avait eu un refus, et pour pas rester sur quelque chose de négatif, voilà, je prenais un bain et dans ce bain j'ai eu des grandes idées en fait. Et j'en ai tout de suite parlé à Anne, parce que le travail d'écriture, nous à deux, notre façon d'écrire à deux, enfin nous convenait bien. Et l'histoire a commencé comme ça en fait.
Et tout de suite elle m'en a parlé et c'est vrai que moi j'étais un petit peu refroidie par ce refus par rapport à l'album où on met beaucoup d'espoir en fait quand on envoie comme ça un manuscrit à un éditeur. Donc tant qu'on n'a pas de réponse on a de l'espoir et puis quand ça tombe c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Et donc il fallait réagir, il fallait rebondir. Et 31 décembre, c'est vrai qu'on a passé notre soirée, on était invités chez des amis communs où on a fait bande à part toute la soirée, parce qu'on était tellement lancés dans notre idée. Sandrine m'a parlé de Doxa, elle était déjà très précise en fait dans son esprit, et on a commencé à imaginer des choses, la famille, l'environnement, des créatures, c'est venu très très rapidement. Et 1er janvier, voilà, bonne résolution de début d'année. On s'est dit, on essaie, on se lance. Quoi. C'était plus un pourquoi pas, finalement, que quelque chose de très profondément ancré. C'était, voilà, il faut essayer. Et voilà, 2 janvier, on s'y mettait. Moi, je pensais qu'on allait tenir 20 pages. Et puis, en fait, c'est venu très rapidement, parce que plus on écrivait, plus les choses se précisaient. Plus assez, la machine s'est un petit peu emballée au niveau de l'écriture, mais dans le très bon sens du terme. Voilà, les idées faisaient place à d'autres et se démultipliaient comme ça presque à l'infini. Le plus difficile, c'était d'arriver à concentrer un petit peu tout ça. À deux, c'est très facile parce qu'il y en a toujours une qui est là aussi pour jouer le garde-fou ou pour stimuler. Inversement, c'est vrai que c'est un rapport qui nous convient, comme disait Sandrine. Moi, toute seule, je ne sais pas faire, et elle, toute seule, elle ne ferait pas non plus. Donc, c'est notre mode de fonctionnement, et qui n'est pas toujours évident, mais on ne sait pas faire autrement. Donc, voilà, on fait avec ça. Et donc, on a écrit un gros manuscrit de 700 pages en 8 mois à peu près, qu'on a envoyé à un éditeur, alors avec l'espoir fou, parce qu'on était très très excités par cette histoire et par ce récit. Et au bout de peut-être deux mois d'attente, où c'est quand même tous les jours à la boîte aux lettres, le téléphone, etc., c'est super difficile d'attendre en fait. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile dans l'histoire, c'est d'attendre. Et d'avoir cet espoir comme ça, toujours qui grandit avec l'attente. Et puis d'un coup, paf, ça tombe. Lettre négative, très, très bateau, c'est pas argumenté. Voilà, donc un bon coup sur la tête. Et Sandrine, qui est beaucoup plus, comment dire, qui rebondit plus facilement que moi, m'a dit, écoute, on laisse pas tomber. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie à d'autres éditeurs? Est-ce que... Moi, j'étais un peu paumée, un peu chaos, en fait. Et on s'est dit, si c'est envoyé à d'autres éditeurs, attendre encore des mois. C'est-à-dire, pendant qu'on attend, on est paralysé. Moi, je ne sais pas attendre et faire autre chose. Donc, ça paralyse, ça rend toute action impossible. Donc, Sandrine me dit, écoute, on a qu'à essayer de faire ça nous-mêmes. Et j'étais très sceptique parce que bon, je suis bibliothécaire depuis une dizaine d'années et je sais un peu comment fonctionnent les libraires, comment fonctionnent les éditeurs, comment fonctionnent les lecteurs aussi. Quelque chose qui est auto-édité n'a pas le gage d'un éditeur, n'est pas passé par ce regard éditorial qui est nécessaire. Ça, nous, on le reconnaît, on l'a toujours su depuis le départ. Mais n'ayant pas ce regard éditorial et cette validation finalement d'un éditeur, d'un professionnel, c'est vrai que c'est très difficile de faire valoir ce qu'on a fait auprès du public et auprès des professionnels. Donc où là, moi, j'étais très sceptique, Sandrine s'est complètement affranchie de ça, a créé la maison d'édition qui était à l'origine les éditions du dehors. C'est très simple hein, de créer une maison d'édition. On va aux impôts, on demande un numéro de SIRET et c'est fait. Donc, voilà, c'était simplement pour éditer notre série.
Alors, la suite de l'aventure, une fois la maison d'édition, enfin la pseudo-maison d'édition créée, on a trouvé un imprimeur. Donc, on a imprimé, je crois qu'au départ, on en avait pris 1000, 1500. Et au même moment, on a demandé à un ami qui faisait des sites de nous en faire un pour Oxa. Pour aussi pour une démarche commerciale, c'était beaucoup plus simple aussi pour un libraire de venir se renseigner sur le comment trouver Oxa puisque il n'était pas en librairie. Ensuite, on est allé démarcher de nous-mêmes auprès des libraires. Donc on leur a donné un livre, ils l'ont lu. On l'a déposé, donc il était en dépôt. Ensuite, on l'a référencé sur Amazon et sur le Fnac.com. Et on a commencé. Alors, on a eu énormément de chance. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on avait fait lire le premier livre à cinq gamins en fait de collège, donc sixième et cinquième. Et au même moment, on avait créé un petit blog. Et ces cinq gamins, à eux tout seuls, ils en ont parlé à d'autres copains en leur disant, dans 15 jours, il y a un livre qui s'appelle Oxa Pollock. Et ils ont commencé à discuter sur le blog. Donc, au moment de la sortie du livre, qui était un 15 février, je crois, on avait, 500 commandes déjà. Donc, on a refait des commandes parce qu'une fois qu'on a déposé les livres en librairie, on devait avoir une cinquantaine de libraires. On avait déjà plus de livres. Donc, on a fait une réimpression de 1000. Et à ce moment-là, on a eu quand même pas mal de jeunes sur le blog. Donc, on a créé un forum parce que c'était beaucoup plus maniable pour eux, pour discuter. Le livre est sorti. Il a bien fonctionné. En Alsace, une tante a acheté le livre pour un neveu qui habitait à Marseille. Le neveu de Marseille en parlait à un copain qui habitait Paris. Et le bouche à oreille. Ça a fonctionné en 2-3 mois et on s'est retrouvé donc avec beaucoup de commandes sur le Fnac.com c'était la SFL, donc la société du livre. Donc c'était des demandes de librairie ou de CDI ou ça s'est multiplié. Alors, le truc fort, c'est que pendant 2 ans et demi, on a démarché toute seule avec notre diable où on mettait nos cartons dessus et on fournissait les libraires du coin ou d'ailleurs. Et la grande histoire, c'est à partir d'octobre, donc octobre dernier. Donc on était au salon géographique de Saint-Dié et on a un jeune Achille qui a 14 ans, qui est venu faire un petit reportage sur Oxa Pollock. Et le lendemain, il a créé un blog où il venait parler d'Oxa Pollock. Et une dizaine de gamins, au départ, ont créé un fan club. Ce fan club donc de 10 gamins s'est retrouvé 4 jours après avec 500 gamins, grosso modo, sur la France entière. Donc ils étaient très, très, très remontés parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait arrêter la série. Parce qu'on était surchargés, parce qu'on bossait à plein temps toutes les deux, parce que cette charge de travail prenait aussi sur l'écriture. Et je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. En fait, ils ont eu peur. Et ils ont écrit une lettre un coup de gueule. Mais c'était simplement un coup de gueule. Hein. Je pense que c'était pour... puis les... Enfin, je pense que tu en parleras mieux. Hein.
Bah, c'est vrai que... Ils sont très observateurs, puis on a eu la chance d'avoir vraiment des gamins, voilà, très perspicaces, très sensibles, qui connaissent très bien Internet aussi, donc qui voient et qui connaissent très bien la littérature jeunesse et notamment fantastique. Et c'est vrai que eux voyaient de la pub partout sur Internet, des bandeaux qui s'allument sur tous les sites spécialisés ou moins spécialisés d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'ils voyaient de la pub qui était faite pour des livres. Qu'on leur prescrivait parfois dans la famille ou à l'école, au collège. Et c'est des livres qui leur plaisaient pas forcément. Et là, ils ont fait une espèce de comparatif comme ça entre une pub vraiment massive et ces livres qui finalement leur tombaient des mains. Et ça, voilà, ça les a un peu mis dans un état d'insurrection. Alors c'est vrai que c'est des petits croisés en fait hein, qu'on a. Enfin, que je dis qu'on a parce que c'est vrai qu'on les aime, on les aime beaucoup parce qu'on leur doit beaucoup. Hein, donc j'ai tendance à me les approprier un petit peu. Hein. Mais ils ont mené une vraie croisade en fait contre cette pub d'un côté qui met en valeur des livres qui leur plaisent moyennement, hein, une espèce de battage médiatique. Et puis eux, ils avaient ce livre en main qui leur plaisait beaucoup, auquel ils étaient vraiment très attachés. Et puis c'était, je ne sais pas si c'était un jeu pour eux, mais ouais, c'était une forme de défi comme ça qui se sont lancés. Et ce coup de gueule, ils se sont dit, il faut qu'on essaie de le diffuser, de le faire passer. Et ils l'ont envoyé à des journalistes. Alors, ils ont pris complètement au hasard, alors certainement les journaux. Que les parents avaient à la maison ou dont ils avaient entendu parler. Donc c'était tout à fait hétéroclite comme démarche. Alors, c'était aussi bien Libération, Le Nouvel Obs, L'Express. Enfin, ils ont un peu comme ça envoyé leur coup de gueule. Et le premier qui a répondu était Le Nouvel Obs, Anne Crignon, qui est journaliste au Nouvel Obs, qui a accepté de publier leur coup de gueule sur le site Bibliops, que vous connaissez peut-être. Site d'échange d'idées, etc. Et ce coup de gueule a fait une espèce de buzz qui a vraiment attiré l'attention à la fois d'adultes qui se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui leur prend ces gamins ?» qui ont essayé de les ramener un petit peu dans une espèce de... voilà, de les refroidir un petit peu par rapport à leur enthousiasme qui était effectivement un peu spectaculaire, mais qui était très sincère surtout. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai échange suite à ce coup de gueule où des adultes leur disaient mais lisez donc Jules Verne ou Dumas et ils disaient mais attendez on vous parle d'autre chose voilà ok Jules Verne on connaît ils n'étaient pas là pour entendre ça donc il y a eu vraiment un débat d'idées entre ces jeunes qui avaient beaucoup d'arguments parce que leurs propos étaient très bien construits. Et puis ces adultes qui essayaient de leur dire « bon, ça va, quoi, si ce livre n'a pas été pris par un éditeur, c'est qu'il n'est pas bon, c'est que si, que ça. » Et eux, voilà, du coup, ça rallumait encore des choses en disant « quoi, il n'est pas bon, mais nous, on peut, voilà, si on l'a aimé, écoutez-nous, quoi. C'est aussi nous qui lisons, c'est nous qui achetons les livres, écoutez-nous. » C'était surtout ça, et regardez par là, voilà, nous, il y a quelque chose qu'on aime, regardez par là. Et... voilà, certains éditeurs ont regardé. Il y en a un qui était plus rapide que les autres et avec lequel on s'est relativement bien entendu. Donc, c'est les éditions XO qui nous ont contactés une quinzaine de jours. Tout ça s'est fait en 2 semaines à peu près. C'était très, très rapide. Donc, nous, on avait... je dirais pas qu'on avait galéré en auto-édition parce que je pense qu'on a eu beaucoup de chance en tant qu'auto-édité que les choses prennent aussi rapidement, aussi bien... la galère, ouais, c'était de tout faire nous-mêmes. C'était les facturations, parce que moi, je sais pas faire ça, je suis nulle. La promotion, c'est très difficile quand c'est pas son métier. De défendre un livre quand vous avez des dizaines et des centaines de choses qui existent, d'essayer de se démarquer, de dire, ben ouais, prenez-moi parce que voilà pourquoi. C'est très difficile finalement de se vendre. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Il faut se vendre, il faut se démarquer des autres. Et ça, voilà, on sait faire, on ne sait pas le faire, et ça ne s'apprend pas. Alors, on a fait comme on a pu, et ça a bien marché, et on a beaucoup de chance par rapport à ça. On a eu de la chance parce que des libraires nous ont fait confiance. On a donné beaucoup de livres aussi, parce que ce qui était important pour nous, c'était pas de gagner de l'argent, c'était de voilà que les gens connaissent notre série, qu'on ait des retours pour se rendre compte aussi est-ce qu'on était dans la bonne voie, est-ce qu'on faisait pas complètement fausse route, parce que peut-être hein, c'est vrai que quand on est convaincu qu'on aime ce qu'on fait, on peut se planter aussi complètement et être à côté de la plaque. Et là, on avait besoin justement d'avis et de gagner un peu en confiance. Et certains libraires ont vraiment, vraiment joué le jeu complètement. Et donc voilà où on en est en novembre dernier, en 15 jours. Tout s'est renversé. En fait, on a fait les choses complètement à l'envers. On a existé avant dans des proportions qui étaient assez incroyables à notre niveau à nous. Parce qu'on a écoulé quand même plusieurs milliers de livres. Et on se retrouve chez Ixo. Et en 2 heures, l'affaire était conclue. Hein. On s'est compris. Bon, alors Ixo, on avait un petit peu peur, nous, de... voilà, c'était comme très impressionnant aussi pour nous, même si c'était quelque chose dont on rêvait, ce coup de fil d'éditeur qui vous dit « Écoutez, j'adore votre livre, il faut qu'on se voit ». On en bavait, quoi. On en avait vraiment très, très envie. Et puis quand ça arrive, voilà, on est complètement, on est un peu sous le choc. Mais donc voilà, on est monté au 47e étage, la tour Montparnasse, où là c'était très symbolique pour nous parce que dans notre livre il y a une colonne de verre comme ça qui est très haute, qui symbolise beaucoup de choses, qui symbolise le pouvoir et une forme de puissance. Donc il y avait un côté comme ça très métaphorique, c'était assez étonnant pour nous. Et voilà, puis en deux heures c'était fait, parce que voilà, lui n'a pas d'autre ambition que la nôtre. C'est voilà que nous, notre but, c'est pas de faire un livre dont on va se rappeler dans 200 ans. C'est on a bien conscience du côté très éphémère des choses, à la fois de l'écriture, du succès ou du non-succès. Tout ça est tellement, tellement volatile. Et lui est tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à nous. Voilà, on fait à un moment donné quelque chose, on prend plaisir à le faire, on essaie que les lecteurs aient autant de plaisir à lire notre livre que nous, on a eu à l'écrire, et ça va pas plus loin, c'est pas plus compliqué. Donc là-dessus, on s'est vraiment bien compris. Et on a pu bénéficier justement de ce regard éditorial qui nous manquait, parce qu'on savait que notre livre avait des défauts quand il était auto-édité. Il en a certainement toujours, mais on en avait tout à fait conscience, sauf qu'on n'avait pas le recul. C'était impossible pour nous de gommer ces défauts, même si on les voyait, c'était pas possible. Donc on avait vraiment besoin de quelqu'un, d'un professionnel, qui nous dise « Écoute, là, je pense que... » Parce que tout se fait sur la suggestion aussi, on ne nous impose pas. Et c'était ce qu'on craignait un petit peu d'avoir, comment dire, une ligne de conduite à tenir, très serrée, qui ne nous convienne pas. Moi, c'était ma plus grande crainte, parce qu'on avait eu cette liberté totale pendant 2 ans et demi, où on écrivait ce qu'on voulait, finalement. Et puis les lecteurs accrochaient, donc tant mieux. Mais on avait une totale liberté d'écriture et de la façon dont on voulait faire évoluer les choses. Et on s'est dit avec un éditeur, peut-être que les choses vont se resserrer, peut-être qu'il va nous dire, écoute, là, je pense que l'histoire d'amour entre un tel et une telle, c'est trop tôt, pas comme ça, ou plutôt comme ça, et que ça serait beaucoup plus dirigé, finalement, comme travail. Et puis là, c'était une agréable surprise, puisque c'était... plus un travail de forme, sur la forme, je ne sais pas, des adverbes qui entrent trop, des choses, voilà, vraiment au niveau du style et de la forme, et de rendre les choses peut-être plus efficaces qu'elles ne l'étaient au niveau de l'écriture propre, au niveau du contenu, rien ne nous a été imposé. Et là, voilà, c'était un peu une découverte.
Alors il y a juste une petite histoire, parce que moi je connaissais pas du tout les éditions XO, ça me disait rien. C'était les gamins qui nous ont suivis et aidés, hein, qui étaient les plus craintifs, hein, puisque dans les 2 jours, hein, ils se sont renseignés sur Bernard Fixo, hein, ils avaient vraiment très peur de cet homme, parce que il était catalogué, voilà, qu'il vendait des livres comme de la moquette, donc les parents leur ont dit « Attends, Bernard Fixo, attention, danger, aux que ça dans les mains de cet homme ». Alors voilà, il lui a envoyé, enfin je sais pas, il a dû recevoir plus de 1500 messages, qui lui rappelait que voilà, Oxa c'est Oxa, faire attention, et c'est des gars de 12 ans, hein, pas faire n'importe quoi, c'était assez épatant, quoi. Et bon, après ils ont commencé à le comprendre, parce que en fait Bernard Fixot a appelé pas mal de gamins pour expliquer qui il était, et parce que la presse, il est dangereux, hein, non, presque dangereux, hein, donc ça faisait un peu flipper tout le monde. Et donc aujourd'hui je connais mieux les éditions XO. On était aussi assez, hein, on avait aussi un peu peur, hein, parce que c'est un éditeur qui fonctionne pas comme les autres éditeurs. Voilà, c'est le business, on n'en tire pas 5 000, on en tire 50 000. Pour un premier tirage, c'est...
En fait, presque du jour au lendemain, on est rentré dans une autre dimension. Tout s'est multiplié à la fois par rapport... le tirage, oui, c'est vrai, quand il nous a annoncé 50 000, on dit, mais t'es sûr? Enfin, c'est pas un peu trop? On doutait. Lui, il nous a dit, écoute, je sais ce que je fais. De toute façon, votre boulot maintenant, vous écrivez. Moi, je vends vos livres. Donc, c'est aussi à ça que sert un éditeur. Pas que à ça, heureusement, mais c'est aussi à ça que sert un éditeur. Et c'est de ce genre de choses dont on a pu, dont on peut bénéficier aujourd'hui. Parce que ce qui était le plus lourd pour nous, c'était cette diffusion, promotion et diffusion, je dirais. C'était ça qui était, c'était infernal. Ça nous bouffait tout notre temps. Et c'est aussi pour ça que les fans ont pris peur. Parce qu'ils voyaient bien, je veux dire, au fil des mois, on était au troisième volume. Je veux dire, on avait des mines de déterré parce que, il y avait toute cette gestion et finalement, on n'arrivait presque plus à écrire parce qu'on n'avait plus le temps. Je veux dire, c'est toutes les pauses déjeuner avant de reprendre le boulot, c'est à la poste à poster des colis et des paquets, ce qui est génial parce que ça veut dire que ça marche. Mais au bout d'un moment, on s'épuise complètement. Il n'y a plus de plaisir. Parce qu'en fait, tout ce qui fait plaisir dans l'écriture, eh ben, ça passe en gestion. Lui, il a pris ça en charge dans des grandeurs, des proportions dont on n'osait même pas rêver. Et c'est...
Par exemple, un bilan un peu depuis... puisque le livre est sorti, le tome 1 est sorti il y a 2 mois et demi. Hein. Donc en 2 mois et demi, il le sort à 50 000. On a vendu, je crois, 43 000 livres en 2 mois. Ça a été traduit, en 8 langues. Le producteur de Twilight, hein, vient d'acheter la série, donc en 2 mois et demi. Donc c'est plus que bouleversant. C'est difficile. On arrive à rester sur terre, hein, parce que on a la notion du travail et tout ça, on le sait, hein. Mais c'est assez... c'est...
Et quelque chose qui était très nouveau aussi pour nous, c'est... Bon, on avait conscience qu'en achetant notre livre, il achetait aussi notre histoire. Hein, parce que, on sait très bien qu'on a fait les choses complètement à l'envers. Hein, et on a tout de suite compris, que c'était aussi notre histoire qui l'intéressait. Donc, et c'est vrai que... Il y a eu beaucoup de médias qui se sont penchés un petit peu sur cette histoire, sur notre histoire. Et c'était quelque chose qui était qui est peut-être encore un petit peu difficile à intégrer et à appréhender finalement, parce que on n'a pas trop l'habitude de ça. C'est d'un coup comme ça, quand vous bossez très dur pendant des années, et puis que d'un coup, pouf, tous les projecteurs sont sur vous. Alors c'est super, mais c'est un peu déstabilisant. Et le fait qu'on s'intéresse beaucoup à notre histoire, au lieu de s'intéresser au livre, finalement. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est que les gens, c'est le livre, hein, c'est pas nous. Et pour le moment, c'est nous qui sommes un peu les porteurs de cette histoire. Et le livre passe un petit peu au second plan. Et maintenant, on a hâte de passer le relais au livre, finalement. Et qu'Oxa vive, existe. Donc ça commence, il y a une espèce de ça commence à s'amorcer. Et tant mieux, parce qu'on commence à aussi avoir des retours d'autres lecteurs de notre communauté de fans. Ça fait beaucoup de bien. c'est puissance 10 par rapport à ce qu'on connaissait, ou même au-delà. Mais voilà, c'est plein de choses. C'est de passer dans une autre dimension. Mais on a tout à fait conscience du côté du parcours un petit peu atypique des choses et du côté un peu spectaculaire, alors qu'on n'est pas... on reste des gens très simples. Donc tout ce côté spectaculaire et un peu médiatisé et un petit peu compliqué à gérer fait beaucoup de bien, mais un peu compliqué à gérer. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Donc on passe de l'ombre à la lumière et d'un travail acharné à un travail acharné, parce que ça change pas.
Moi, je voulais justement, puisque on a vu un peu le parcours, et je voudrais qu'on ressente sur le livre et qu'on parle maintenant d'Oxa, du personnage, du contexte. Donc en fait, Oxa, c'est une adolescente de 13 ans, oui, qui mène une vie ordinaire avec ses problèmes d'adolescente, et puis qui d'un coup voit sa vie basculer parce qu'elle se voit investie de pouvoir et des révélations autour d'elle qui lui sont faites et qui changent complètement. Elle passe de Paris à Londres, voilà. Et donc je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce personnage justement, avec ses pouvoirs et la façon dont elle les vit.
Oui. En fait, Oxa, on voulait une jeune fille, une héroïne, pas une anti-héroïne non plus, mais quelqu'un de très ordinaire, très proche en fait des jeunes filles de 13 ans qu'on peut avoir autour de nous. On voulait aussi que ça se passe dans la réalité, ça c'était très important. Tout simplement parce que Sandrine, comme moi, on a un petit peu du mal parfois à... avec les livres où on est vraiment dans un monde, un univers parallèle. C'est pas quelque chose qui nous parle. Peut-être que ça nous fait peur, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voulait pas ça. On voulait vraiment un contexte, un environnement très réaliste. Donc, Oxa, c'est une jeune fille ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Elle est en apparence comme les autres. Elle a des préoccupations de jeune fille de 13 ans. Avec ses parents, c'est pas toujours évident. Les parents sont très très présents aussi. Ça, c'est, on retrouve souvent des héros, oui, orphelins. Oui. Nous, on voulait absolument pas d'une héroïne orpheline. On voulait, une jeune fille vraiment comme les autres, avec ses parents qui des fois sont un peu lourds, un peu trop présents. Elle aimerait bien être un peu plus libre et autonome. Elle a des problèmes parfois avec ses amis, au collège avec ses profs. Voilà, un quotidien très ordinaire. Et puis, ouais, un jour son destin bascule parce qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs et en fait elle découvre toutes les origines de sa famille. Elle soupçonnait absolument pas ça. Donc il y a la grand-mère qui est aussi très très présente. Il y a vraiment c'est l'histoire de plusieurs générations, hein, de toute une communauté, toute une famille. De la jeune fille à la grand-mère. Et en découvrant les origines de sa famille, la vie, ça peut plus être pareil. Là, tout est bouleversé. Et en même temps, elle doit préserver les apparences. Elle doit faire comme si elle était ordinaire. Parce qu'on est justement dans cette réalité qui est très contraignante. Et nous, c'est quelque chose qui nous intéressait de développer quelque chose de fantastique, de l'imaginaire, dans un univers, un environnement qui limite finalement cet imaginaire. Et c'est beaucoup plus difficile finalement d'être une jeune fille pleine de pouvoirs magiques dans un monde comme le nôtre. Alors c'est vrai qu'on a souvent fait la comparaison avec Harry Potter. Bon, c'est un raccourci qui est très très facile et que font très volontiers les journalistes.
Alors que oui, on en est très loin justement, parce que Harry Potter, au contraire, il est à Poudlard, il apprend à servir de sa magie, etc. Alors que Oxa, elle a vraiment une vie très 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 ordinaire, et puis même elle a cette espèce d'interdit qui lui tombe dessus, parce que tout le monde lui dit, ouais, dans sa famille, attention, si on découvre qu'on a ses pouvoirs et qu'on est différent, c'est très dangereux pour nous, parce qu'on va nous enfermer comme des bêtes de laboratoire, on va nous étudier, on va nous utiliser. Donc pour elle, c'est très compliqué dans la cour de l'école quand elle se fait agresser par le plus grand, qui est toujours en train de l'embêter, dont j'ai oublié le prénom. Finalement, pas se servir de ses pouvoirs. Et d'ailleurs, elle s'en sert bien malgré elle. Elle les contrôle pas. Quand elle pique une colère dans sa chambre parce qu'elle en a vraiment marre, il y a trop de choses qui sont arrivées sur elle.
Elle n'arrive pas à évacuer.
Harry est très digne et vit ça très bien, autant elle pète un plomb, comme le ferait une adolescente de 13 ans qui découvre une vie cachée, qui découvre des choses qu'elle maîtrise pas. Bon bah voilà, elle pète un plomb, elle met le feu à sa chambre.
Mais quand on a commencé à l'écrire, on était vraiment dans la vague. Hein. Enfin, on était en plein dans Harry Potter et on a fait très attention. Mais c'était pour faire une copie de Harry, c'était pas intéressant. Donc c'était voulu hein, de le faire aussi dans la réalité. Parce que Harry, lui, doit montrer qu'il est un grand sorcier, puisqu'il est dans une école de magie de sorciers, tandis que ça est dans la réalité. Si elle, voilà, elle peut pas montrer qu'elle a des pouvoirs, sinon elle met en danger sa famille. Et voilà, c'est pas possible de montrer qu'on a des pouvoirs aujourd'hui, voilà, devant vous là, devant tout le monde. Mais ça a été autant pour les pouvoirs que pour l'objet. Quand on pense à Harry, on pense à ses lunettes, on pense à sa baguette. Donc c'était pas possible de mettre une baguette magique, c'était trop symbolique, enfin c'était trop donc il a fallu, et c'est venu très très vite, donc le soir du réveillon, de trouver cet objet, donc notre Crash Granoch, qui est tout sauf une baguette magique, qui est un objet voilà, on était content de l'avoir trouvé.
Je vais juste vous dire comment on l'a trouvé, c'est tout bête, hein. Donc je replace 31 décembre, petite sarbacane avec les petites boulettes qui sortent. Voilà, donc on s'est dit tiens, ben pourquoi ces petites boulettes, ça pourrait pas jeter des sorts. Et moi j'étais un peu malade, je prenais de l'homéopathie, donc toutes mes heures avec les petites granules. Et on s'est dit bah tiens, ben voilà quoi, tout simplement la petite sarbacane qui jette des petites billes. Voilà.
Des granules.
On s'est beaucoup inspiré justement de petites choses comme ça qui faisaient partie de notre quotidien. Et c'est pour ça aussi que les lecteurs ont bien accroché, parce que Oxa, elle leur ressemble. Je veux dire, c'est à la fois nous, les gamins de 13 ans qu'on connaissait, qui nous ont inspirés. Et inversement, bah, eux se sont retrouvés dans le personnage. C'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. On s'est bien trouvés les uns les autres.
Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé et qu'on va aborder maintenant aussi, c'est il y a d'une part effectivement quelque chose de très quotidien, de très humain, une gamine de 13 ans très ordinaire. Et en même temps, il y a une inventivité extraordinaire avec des trouvailles. Alors, par exemple, les Crash Granoch avec les granocologues qui vont trouver des graines qui ont toutes des utilisations spécifiques, etc. Et alors, toutes ces créatures qui se baladent autour de ces gens-là, notamment, avec l'idée notamment de la pièce secrète de la grand-mère de Dragomira, qui finalement ouvre l'étui de sa contrebasse. Et quand c'est elle qui l'ouvre, derrière, il y a un escalier. Et elle peut accéder à sa pièce secrète. Et là, on découvre des tas de créatures, et alors avec une inventivité extraordinaire, avec les Foldingos, qui sont des espèces de grands personnages très dignes, qui manipulent la langue française de manière assez... les dialogues sont à mourir de rire. Les Goranov, donc cette espèce de plante complètement parano, qui parle, qui pousse des cris, et puis qui flippe tout le temps, et qui passe sa vie à s'évanouir. Vouf, toutes les feuilles tombent, et la plante s'est évanouie. L'insuffisant qui a, pas le dixième d'un cerveau et qui met 15 plombes à capter ce qui se passe autour et qui est toujours en décalé. La devinaille également. Enfin, vous avez mis des tas de créatures et là on sent que vous êtes régalé.
On s'éclate.
Et je pense que ça aussi, ça interpelle notre imaginaire d'enfant et ça a dû énormément plaire aux jeunes lecteurs.
Mais on revient à Harry Potter. Voilà, on se disait si on met des gnomes, si on met tout ce qui existe dans le folklore fantastique, je vois pas l'intérêt. Donc il a bien fallu moi je dessine beaucoup hein, donc on avait déjà des personnages qui étaient assez sympas et on voulait vraiment créer l'univers des Défias, donc l'univers et toutes ces créatures. Et c'est venu très vite, enfin simplement.
Mais je pense que, enfin moi, d'imaginer qu'il y a une pièce au-dessus de chez moi avec plein de petites créatures comme ça à mon service, puis complètement farfelu. Enfin, c'est des choses. Ouais, c'est moi j'aurais envie de vivre ça et de les connaître. Et là, c'était lâcher aussi un peu de. C'est très pratique toutes ces créatures parce que même dans des situations tragiques, elles apportent comme ça un peu de répit, je dirais. Oui, pas forcément de légèreté, mais du un peu de répit.
Hein. Et puis elles ont leur utilité autour des héros. C'est pas juste des créatures plaquées comme ça qui ne servent. Elles sont utilisées dans l'histoire. Elles sont. Mais enfin, c'est vraiment époustouflant cette inventivité, quoi, parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'elles sont allées chercher tout ça?
Partout autour de nous. C'est. Enfin, tout est source d'inspiration, de toute façon, toujours. Toujours.
Je voulais vraiment me régaler, vous montrer, parce que je crois que ça, c'est pas imaginable. J'avais juste sélectionné un tout petit passage pour montrer comment parlent les folles dingos. Et alors, en plus, moi, les folles dingos, je les imagine avec un accent, je ne sais pas pourquoi, un accent des pays de l'Est. Si vous voulez bien, parce que je pense que c'est lire un passage, ça vous parlera 10 fois plus que tout ce qu'on peut en raconter. Donc c'est le moment où Oxa, finalement, il y a des révélations qui sont faites en plusieurs étapes, et le jour de son anniversaire, me semble-t-il, Oxa finalement monte chez sa grand-mère et sa grand-mère va lui faire découvrir la pièce secrète. Et donc elle rencontre les folles dingos. Non, ça c'est pas ce passage-là, pardon. C'est le passage après lequel elle a complètement pété un plomb. Elle a justement découvert tout ça. Et puis on lui a annoncé des choses et après on l'ignore complètement parce que ses parents sont très occupés, ils tiennent leur restaurant et puis il y a eu des choses dans l'intrigue qui font que la famille est très inquiète. Donc ils sont souvent en train de se réunir, de parler parce que autour d'Oxa il y a son oncle, sa grand-mère, enfin son grand-oncle. Sa grand-mère, les amis de ses parents, enfin et voilà, elle est très entourée, mais à un moment donné, elle se trouve complètement seule. On lui a dit des choses, puis après, et puis à chaque fois qu'elle pose des questions, on n'a pas le temps, on peut pas te répondre. Attends, on parle entre adultes. Attends, c'est sérieux. Et c'est là où en fait, elle monte dans sa chambre, elle pète un plomb, elle fait des bêtises aussi à l'école où elle utilise.
Elle gère plus rien.
Ouais. Et en fait, suite à ça, évidemment. Il y a un des folles dingos avec qui elle en discute. Voilà. Quand elle vit le folle dingo devant elle, elle ne put s'empêcher de sursauter. Le petit être attendait sagement près de son lit, les bras pendant le long de son corps replet. « La peur doit s'exclure de votre esprit, petite fille de ma gracieuse, » dit-il d'une voix aigrelette. La domesticité de ma gracieuse ne faisait pas la préméditation de provoquer l'effroi. Oxa se redressa, les yeux rivés sur lui. Je n'ai pas peur, bredouilla-t-elle. Je suis juste surprise. Je peux faire quelque chose pour toi ? Le folle dingo secoua négativement la tête avec une frénésie qui impressionna Oxa. Le folle dingo de ma gracieuse a reçu dans son oreille les mots dont les hôtes de cette habitation ont pratiqué l'échange. La petite fille de ma gracieuse a rencontré la combustion de son cœur qui était farcie de colère. Alors la magie a connu l'inondation et nul sauf Kipim a pu faire le montage de digues pour soumettre une énergie née de cette colère. J'ai fait une grave erreur, n'est-ce pas ? L'erreur est gonflée d'humanité et la petite fille de ma gracieuse a maintenant la connaissance qu'elle recèle à l'intérieur de son cœur plusieurs portions pleines de variétés. Elle devra désormais faire la conduite de sa vie avec cette composition de du dehors et du dedans. L'erreur ne peut pas connaître de réparation, mais elle doit néanmoins rencontrer l'admission. La petite fille de ma gracieuse n'a plus l'ignorance des nourrissons. Elle a fait son introduction dans l'âge vigoureux de l'adolescence, où les actes font la rencontre avec le paiement de leur prix. Autrement dit, je dois assumer, grogna Oxa. La petite fille de ma gracieuse a fait la réception éclairée des paroles du folle dingo. Puis, laissant Oxa en pleine réflexion, la petite créature s'inclina cérémonieusement et recula jusqu'à la porte de la chambre avant de disparaître. Donc vous voyez, c'est plein de poésie, ces dialogues avec ces folles dingos qui ont vraiment des phrases très alambiquées, mais c'est très amusant.
L'accent russe, très bien.
Hein, l'accent russe, hein, ça sort bien, je trouve.
Plus vrai que nature. Magnifique, ouais.
Donc voilà. Alors effectivement, le monde des défias, il est notamment dans le tome 1, parce que pour l'instant, j'ai pas lu le tome 2 que j'ai acheté. Bien sûr, j'ai acheté les deux ouvrages et j'ai pas eu le temps de, puisque j'ai fini de lire le tome 1 il y a très très peu de temps. Bien évidemment, je boude d'impatience de le lire pour avoir la suite, parce que on prend très vite goût à ça, on devient accro à cet univers-là et on a vraiment envie de connaître la suite. Donc en fait, ce monde du dedans, c'est le monde des défias. Mais alors, d'après ce que les personnages en disent, il semble que ce soit un monde complètement idyllique.
C'est une prison dorée, moi.
Et en fait, voilà, je voulais que vous nous en parliez un petit peu, parce que là, en plus, avec les traîtres Ah, les félons. Les félons, eux, ils ont une autre vision de la chose, effectivement. Ouais. Mais Dragomira, quand elle en parle, pour elle, c'est vraiment un monde complètement. Alors, justement, pourquoi ce monde idyllique? Est-ce qu'il est vraiment aussi idyllique que ça? Et est-ce que vous l'avez pas créé, justement, pour faire un pendant au monde actuel et à ses défauts?
Mais, en fait, Edéphia, ça représente. En tout cas, aux yeux de la grand-mère qui l'a quittée quand elle avait 13 ans, à 13 ans, voilà, elle n'avait pas toute la lucidité que pouvaient avoir les adultes qui ont quitté ce monde. Et pour elle, voilà, ça représente quelque chose où c'était l'idéal, un monde idéal, une espèce de paradis perdu. Alors c'est vrai qu'on retrouve le terme « terre perdue » aussi, voilà, qui est assez universel. Il y a ce thème de l'exil, en fait, qui est très important dans l'histoire. Parce que on a tous quelque chose de, voilà, on est tous un peu exilés de quelque chose, en tout cas, ou d'un univers, ou d'un pays. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qui peut nous parler à un moment ou à un autre. Et on se fait souvent des illusions sur ce qu'on a perdu, hein. Que ça soit par exemple l'enfance. Je veux dire, quand on est plus grand, on se dit, ouais, l'enfance, c'était merveilleux, en fait. On garde quelque chose des images qui sont peut-être plus jolies qu'elles ne l'étaient au moment où on était dedans. Et puis, Edéphia, c'est un peu ça. Les gens qui ont quitté leur terre la regrettent. Très souvent, c'est que c'est un poids, cette perte dans leur cœur. Et en même temps, ils se font une image qui est très idyllique de cette terre qu'ils ont perdue. Qu'ils ont parfois quitté contre leur gré parce que voilà, il y avait une guerre ou il y avait ou des événements les ont poussés à quitter cette terre, mais gardent quand même une image idyllique de cette terre. Et en fait, plus on s'éloigne, plus on perd cette lucidité. Et Dragomira est un peu dans la grand-mère est un peu dans ce cas-là, où là d'autres qui avaient un regard d'adulte sur cette terre perdue lui disent non, c'était pas si beau que ça. C'était pas si beau. Et quand Sandrine parle de prison dorée, c'est tout à fait ça. C'est un monde où on essayait de préserver une espèce de sécurité comme ça bienveillante, où le peuple était maintenu dans l'ignorance, justement pour ne pas se rendre compte que les choses n'étaient pas si dorées que ça. Donc ce peuple a été maintenu vraiment dans l'ignorance pendant des siècles, et les gracieuses, les souveraines, étaient là aussi pour garantir cette ignorance. Et pour la préserver. Et à partir du moment où le peuple a eu connaissance d'autre chose, il existait autre chose ailleurs, pas forcément mieux, pas forcément pire, mais autre chose, c'est là que tout a commencé à déraper et que le chaos s'est installé. Mais effectivement, oui, il y a tous les aspects de la terre idyllique, du paradis doré, oui.
Oui, ils sont très bio, en fait. Hein.
Oui, absolument.
Il y a très, très écolo, très...
Donc, on très utilise...
Très raisonné, c'est très raisonné.
On utilise tout ce qui existe, ouais. Je veux dire, les sylvabules vivent dans les arbres, mais c'est pas archaïque, hein, c'est vraiment des habitations très, voilà, très, très organisées, très...
C'est une société qui est assez sophistiquée, mais pas, comment dire... C'est ni futuriste ni archaïque, en fait. Il y a un raisonnement, c'est un fonctionnement très raisonné, l'utilisation de la nature, de la composition de tout ça, l'échange entre les animaux, les pierres, les plantes, les humains, tout est mis sur le même niveau. L'humain, voilà, tout ce qui est vivant a la même valeur. Et tout est basé là-dessus. Tout est, voilà, il n'y a pas de notion de profit, il n'y a pas de notion de puissance. Même si on s'aperçoit qu'à partir du moment où il y a une toute petite faille, voilà, un humain reste un humain avec une volonté peut-être de domination, et pas tous, mais en tout cas certains profitent de la moindre faille pour grandir et écraser les autres.
Oui, et justement, une des problématiques des gracieuses, donc les fameuses souveraines qui, elles, pouvaient passer le portail pour aller du dedans vers du dehors, c'était que tous les habitants des défias, finalement, une fois qu'ils sont du dehors, ils ont des pouvoirs. Et c'était de faire en sorte d'éviter, c'est pour ça qu'elles voulaient protéger, d'éviter que ces personnes puissent sortir avec ces pouvoirs, et puis aussi que le monde du dedans soit perverti, finalement, par le monde du dehors. Donc... dans le tome 2, je suppose effectivement qu'il y a des choses qui sont exploitées que je n'ai pas encore vues dans le tome 1 que je suis très curieuse de découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une suite ?
Il y a 6 tomes qui sont prévus.
D'accord.
6, donc 5 par rapport à l'intrigue. Donc là, les deux ont été, sont sortis très, de façon très rapprochée.
Oui, un au mois de mars et le deuxième est sorti le 20 mai.
Il vient juste de sortir.
Voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore lu.
En fait, bon, ça, c'est vraiment la volonté de l'éditeur de regrouper et de sortir très rapidement tout ce qui existait déjà.
D'accord.
En sachant que sur le dernier volume, donc il y a une grande partie que certains lecteurs connaissent déjà, et il y a une partie totalement inédite, parce que c'est important aussi pour nous de leur donner quelque chose de nouveau aussi, qu'ils n'aient pas l'impression de relire ce qu'ils avaient déjà lu, même s'il y a des choses qui sont gommées, qui sont approfondies, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'intrigue reste strictement la même. Donc ça sera effectivement 6 tomes, avec un 6e qui est plus une genèse. On revient sur l'enfance et la jeunesse de certains personnages.
D'accord.
Et de la vie à Edéphia, justement, pour essayer de comprendre pourquoi ces personnages sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, on avait vraiment envie de revenir en arrière. Ça permet de clôturer comme ça la série et... mais on écrit moins rapidement. Non, ça sera pas une sortie tous les 2 mois. Heureusement, ça sera un par an à peu près. Oui.
D'accord. Bah, écoutez, je pense que ça conclut bien notre entretien. Donc, je vous conseille vraiment très, très, très vivement la lecture donc d'Oxa Polak, le tome 1, L'Inespéré, hein, et puis le tome 2, donc La Forêt des Égarés, qui vient de sortir. Donc, je pense qu'ils doivent être disponibles à la Bulle du Livre. Mm-hmm. Hein, si vous voulez vous les procurer. Et puis les auteurs, bien évidemment, sont à votre disposition, parce que je crois que vous avez une séance de dédicace qui est prévue maintenant. Donc vous pouvez les rencontrer, leur poser d'autres questions, si le cœur vous en dit. Merci de votre attention, en tout cas.
Merci.
Merci à vous. Ah bah, de rien. Ah, moi, je me suis régalée. Hein. Et donc le deuxième, moi, je l'ai
eu... Hein, ouais, c'est vachement bien, on proposera au réalisateur.
Ah ouais, je ça avec c'est... l'accent russe, ouais, hein, ouais, moi je le voyais un peu avec un accent comme ça des pays de l'Est.
Ouais.
Surtout en plus, la famille est passée par, par l'Est et tout ça, donc je me disais que les Foldingo pouvaient avoir...
Ils
sont très slaves, voilà, moi ça m'a évoqué ça.
Oui, ils sont très slaves.
Ça m'a évoqué ça, forcément, des personnages avec... Mais c'est génial, le trouvaille, vraiment, j'ai vraiment adoré.
Ça fait du bien.
Bah oui, je pense que ça fait plaisir, effectivement. Comme je suis écrivain moi-même, je sais ce que c'est quand on reçoit un petit peu... Ah bah oui, non mais... En fait, comme il paraissait le 20, moi je l'ai eu par mon libraire, donc le temps qu'il l'ait, qu'il le commande, je l'ai eu en fait juste avant de partir. Parce que la semaine dernière, j'étais à Saint-Malo. Et en fait, j'enchaînais Saint-Malo-Épinal. Donc je l'ai eu en fait avant de partir à Saint-Malo. Et donc il était dans ma valise, mais j'ai pas eu le temps de le lire.
Il faut juste un peu de temps pour lire.
Voilà. Mais celui-là, je l'ai lu vraiment vite. Hein. Je l'ai dévoré, mais vraiment. Et alors à chaque fois, c'était des trouvailles. C'était... Et je trouve que vraiment la confrontation entre les personnages est bien trouvée. Le personnage de Gus aussi, le copain.
C'est tout ça qui
est intéressant. Ouais, vraiment. Et je pense que pour des ados, je comprends pourquoi ils ont complètement accroché. Parce que je pense qu'ils se retrouvent complètement dedans. Et c'est justement, à mon avis, une antithèse d'Harry Potter. Ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'est vrai que ce raccourci, il est tout de suite fait. C'est,
bah oui, bah oui.
Et en même temps, c'est un peu flatteur, mais c'est énervant au final.
Oui, parce que
c'est d'abord, au bout de 2 pages, vous aviez compris.
Bah oui, ça, bien sûr, bien sûr.
C'est, voilà. Bon, après, si c'est des raccourcis qui les arrangent et qui... Tant mieux.
Ils espèrent que ça fera vendre ou autre, mais bon...
Mais je suis pas d'accord, moi. Je suis pas du tout d'accord.
Oui, oui, non, je...
Harry Potter, le rôle qu'il a joué, c'est surtout John Rowling qui a joué un rôle, parce que... J'adore le destin de cette femme.
Oui, tout à fait. Ouais.
Je suis très admirative de ce qu'elle est devenue, d'où elle vient.
Oui, complètement. J'aime complètement.
Donc voilà, l'inspiration, elle est là. C'est plus. C'est remarquable.
C'est possible.
En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est remarquable et qu'il faut continuer. De toute façon, je suis accro à la série, donc j'attends la suite. Et je suppose qu'après, à la fin, parce que moi, j'avais discuté longuement avec Robin Hobb, donc qui est aussi auteur, qui avait fait un certain nombre de bouquins, avec notamment son personnage de flûte, où elle a eu, je ne sais plus, 7 ou 8 tomes. Bon, bref. Et au 8e tome, elle finit par tuer son personnage. Parce qu'elle n'en pouvait plus, quoi, à un moment donné. Alors, elle disait que d'un côté, elle avait un soulagement énorme à dire « je sors de la série ». Alors, évidemment, les fans ont hurlé, parce qu'ils en voulaient d'autres. Et en même temps, elle a dit « je me suis retrouvée après orpheline, parce qu'il fallait que je passe à autre chose, et c'était difficile ». Donc, c'est vrai que là, on sent en plus un vrai monde qui se construit, et dans lequel vous allez pouvoir exploiter plein de trucs. Mais c'est vrai qu'à l'issue du 6e, après, il faut se dire « bon, vers quoi je vais aller ?»
D'accord. Ouais. Je pense que ça doit être... Non, il y a rien.
On doit retomber complètement à plat. Je vais être épuisée.
Oui, je suppose. Je suppose.
Ouais, parce que c'est.
Quand on a une saga comme ça, effectivement, on est complètement dedans. Moi, elle me disait, j'étais. Alors, Dieu merci, après, elle a retrouvé. Enfin, elle fait d'autres projets et elle est repartie sur d'autres choses. Mais.